Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le monde libre avait besoin d'un festival de cinéma. Nous nous trouvions quelque temps avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, où situer ce festival ? En France, bien sûr, et sur la Côte d'Azur, évidemment. Dans les chemins de la connaissance, Antoine Guillot proposait le 20 mai 2002, sur France Culture, un retour en images. Le Festival de Cannes, premier épisode, haute forme, bicorne et caviar.
Le Festival de Cannes s'apprête à dérouler son tapis rouge pour la 55e fois et rend hommage à deux éditions avortées, celle de 1939 qui n'a jamais eu lieu et celle de 1968 quand les événements de mai firent irruption dans le monde à la fois clos et surmédiatisé où se célèbre chaque année la grand-messe du cinéma d'auteur mondial. Dans son livre publié à l'occasion des 50 ans du festival, D'or et de palme, le Festival de Cannes, l'historien du cinéma Pierre Billard écrivait: l'évolution du Festival de Cannes pourrait être racontée comme l'histoire d'une fête touristique à prétexte cinématographique, peu à peu dévorée par le dieu dont elle mimait le culte et finalement possédée par l'art dont elle s'était fait un drapeau. Créé pour des raisons autant diplomatiques que touristiques et économiques, le Festival de Cannes a en effet longtemps été le lieu où le cinéma n'était qu'un prétexte pour s'amuser et faire la fête entre professionnels du cinéma, stars et académiciens français dont la présence légitimait ce qui n'était pas encore un art. Et c'est presque malgré lui, sous l'assaut conjoint des critiques et d'une génération montante de cinéastes, que la cinéphilie s'est emparée du festival et lui a permis d'être à la fois le miroir et un des acteurs essentiels de la transformation d'un divertissement populaire en art majeur du XXe siècle. Deuxième événement médiatique après les Jeux Olympiques, Cannes est aussi un marché où les films s'achètent, se vendent et se promeuvent, un espace-temps où les passions s'exacerbent, un ensemble de mythes, de représentations et de cérémonies où imaginaire et réel se confondent. Retour sur ces années qui ont fait de Cannes l'emblème du modèle français dans l'approche du cinéma, un modèle anti-hollywoodien. Une histoire qui commence à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Antoine Debecq, le Festival de Cannes aurait donc dû se tenir en 1939, mais il a des origines un peu précédentes. C'est dès 37-38 qu'on va penser à un festival en réaction contre le Festival de Venise, et pour quel motif ? Est-ce que c'est des motifs politiques ou économiques ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est des motifs d'abord politiques. Le plus grand festival de l'époque, c'est donc la Mostra de Venise, qui est sous domination mussolinienne. Très vite naît l'idée que le monde libre, entre guillemets, a besoin d'un festival, a besoin d'une réunion comme ça annuelle de ses principaux acteurs cinématographiques, de ses principaux cinéastes, des producteurs, des professionnels. Et donc germe l'idée, notamment chez Philippe Erlanger, qui est un historien, qui est proche du gouvernement, de créer un festival. Alors où ? L'idée de choisir Cannes vient assez vite, à la fois pour des raisons, je dirais, anciennes, notamment touristiques. Cannes est déjà une cité de villégiature extrêmement connue, la Riviera, la Côte d'Azur. Et puis, c'est aussi l'idée d'avoir un lieu qui soit suffisamment convivial et agréable pour être justement le concurrent direct de Venise. C'est-à-dire que vraiment le festival se crée sous cette concurrence-là, d'être le festival du monde libre face à la Mostra de Venise.
Il y a un enjeu économique aussi très, très pratique, qui est que la Mostra de Venise avait aussi été créée pour des raisons touristiques. Il fallait remplir les grands hôtels. Et un Henri Gendre, qui est directeur général du Grand Hôtel de Cannes à l'époque, pousse beaucoup pour cette manifestation. Jean Doucher.
Un festival de cinéma, c'est quand même quelque chose de tout à fait attractif. Et en même temps de fascinant, d'étincelant, tout ce qu'on veut, quoi. Et pour des grands hôtels qui sont en général, qui sont pleins que 2 mois par an à l'époque. Avoir un festival soit un peu avant la saison, soit juste après la saison, est une source de perpétuation, c'est pas bon ça, du commerce. C'est logique. D'ailleurs, tous les festivals fonctionnent comme ça. Il y a très très peu de festivals qui se passent en juillet et août parce que il n'y a pas à ce moment-là assez de places dans les hôtels. En même temps, le problème justement de Cannes, c'était à la fois contre Venise, mais surtout d'un point de vue politique, en effet, parce que Venise, de plus en plus, Mussolini voulait imposer sa loi, et entre autres, intervenir. Par exemple, on sait très bien que des brumes avaient fait scandale à Venise, parce que, et on voulait, Erlanger voulait faire un festival beaucoup plus libre, d'une certaine façon.
Alors, donc, le festival doit se tenir, en principe, du 1er au 20 septembre 1939, et là, qu'est-ce qu'il se passe, Antoine de Bec?
C'est la guerre qui est déclarée, la drôle de guerre, mais c'est quand même la guerre quand même, et donc la manifestation est annulée. Tout était prêt, le casino municipal réquisitionné, Louis Lumière nommé président du jury, Gary Cooper, Mae West étaient invités comme vedettes américaines, et donc du 1er au 20 septembre le comité de direction était très fier de son premier festival de Cannes, qui donc n'a pas lieu. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, tout est annulé. En juillet 1939, tout est annulé. Et donc, le festival n'aura lieu que 7 ans plus tard.
On dit qu'il y a eu plusieurs tentatives de remonter le festival pendant l'occupation, que Philippe Erlanger agissait beaucoup et a proposé à plusieurs reprises, et on a essayé de le tenir en 1942. Vous êtes au courant de cette...
Non.
Antoine Demet ? Non, je ne savais pas, mais c'est vrai que les archives du Festival de Cannes sont à la fois tout à fait passionnantes et sont en train de sortir. C'est-à-dire qu'il y a un délai qui arrive à expiration maintenant et qui fait que aujourd'hui il y a pas mal de chercheurs, notamment américains, qui travaillent sur cette concurrence des festivals Venise, Cannes, Berlin, et les archives vont sortir, et donc ce ne serait pas tout à fait étonnant effectivement que le gouvernement de Vichy ait voulu mettre la main sur une manifestation de prestige de cet ordre-là. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre, le cinéma français se portait plutôt bien.
La libération arrive, et très vite, le Festival de Cannes démarre vraiment, le 20 septembre 1946.
C'est à Cannes que le premier festival du cinéma qui ait lieu depuis la guerre réunit en ce moment les producteurs, les cinéastes et les artistes de tous les pays du monde, suivi du cortège d'admirateurs que traîne après elle cette belle muse qui depuis 40 ans n'a pas encore de nom. Dans les rues, les chars somptueux se succèdent, portant les plus jolies filles parmi les fleurs. Et le soir, les troupes coloniales qui défilent au flambeau jettent une note exotique et guerrière. On travaille le jour à voir et juger tant de bandes projetées à toute vitesse, mais le soir, il faut se distraire un peu. Au bal du Grand Hôtel, Jean-Pierre Aumont fait tournoyer sa jeune femme, Maria Montez. Mais soudain, l'ombre se dissipe, la lune pâlit et des torrents de lumière se déversent du ciel. Le jour fallacieux a remplacé la nuit, un feu d'artifice embrase les jardins et la mer, et comme dans les fables de l'Antiquité, au temps des dieux, une pluie d'or retombe à travers les palmiers.
Oui, on le voit, ce festival est placé sous le signe de la fête. Qu'est-ce qu'il y avait comme film dans cette première édition qui commence le 20 septembre 1946, Antoine de Bec ?
Le premier impératif du premier festival de Cannes, c'est qu'il y ait tout le monde. C'est important, 1946, le monde sort de l'épreuve et se reconstruit, et diplomatiquement, il est extrêmement important d'avoir des représentants de tous les cinémas du monde, en tout cas de tous les cinémas, je dirais, de ceux qui ont gagné la guerre. Et donc, on va retrouver au festival cet impératif diplomatique, aussi bien dans la sélection officielle, que dans les prix, puisque, en fait, chaque pays est récompensé. Et donc, vous avez le Grand Prix du Festival International du Film qui récompense une dizaine de films. Alors, vous avez dans ce cadre-là des films qui sont restés comme des grands films de l'histoire du cinéma. Vous avez Rome, ville ouverte de Rossellini, vous avez Brève rencontre de David Lean, vous avez même Hitchcock qui vient présenter Notorious, qui n'a pas de prix mais qui vient présenter Notorious, ou René Clément, La bataille du rail, qui obtient lui le prix du jury international, qui est peut-être la seule distinction qui échappe un peu à cet impératif diplomatique. Il n'y a pas encore de Palme d'Or, mais ce qu'on pourrait appeler le grand prix serait celui qui va à René Clément. C'est vrai que pendant longtemps, pendant je dirais les premières années du festival, c'est cet impératif diplomatique qui va à la fois conduire très officiellement les films à Cannes, c'est-à-dire que les films sont présentés par les cinématographies nationales, par les responsables des différentes cinématographies nationales au Festival de Cannes, et d'autre part, les récompenses, aussi bien que les acclamations, sont un petit peu réservées comme ça, à part égale, aux grandes délégations qui viennent du monde entier, avec aussi toutes les tensions qui peuvent accompagner cela, puisque très vite le contexte du monde va influer sur le festival et son déroulement, puisque la guerre froide va succéder à cette ambiance, je dirais, de reconstruction qui préside un petit peu au festival 1946.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu la tarde naissance du festival, d'avoir été une volonté gouvernementale et d'avoir été dirigé par des diplomates? Ce sont les grandes années de Philippe Erlanger, mais aussi d'un délégué général qui va être Robert Favre-Lebré. Qui est cet homme, Jean Douché?
Robert Favre-Lebré est un grand fonctionnaire qui a travaillé comme un haut fonctionnaire, c'est-à-dire avec beaucoup lui aussi de diplomatie, mais non plus de la diplomatie vers l'extérieur, mais de la diplomatie vers l'intérieur, c'est-à-dire comment en effet ménager et ceci et cela. Et il sera très très habile dans cette espèce d'exercice périlleux. Il réussira, à mon avis, à faire en sorte que le minimum de tension puisse se manifester. Et le minimum de tension au Festival de Cannes, c'est énormément de tension, parce que en général, c'est quand même assez violent, en tout cas dans les coulisses. Et donc, un directeur général est obligé, là encore, d'être extrêmement précautionneux, quoi.
Mais ce sont des tensions diplomatiques. On a du mal à imaginer maintenant que dès la première projection à Cannes en 1946, parce que le film soviétique La prise de Berlin casse pendant la projection, la délégation soviétique menace de quitter la salle. Mais quand ils voient que les enchaînés ont été projetés à l'envers, qu'une bobine a disparu, ils se disent bon, ça arrive pas seulement à nous. Il y a en 1951, les soviétiques exigent le retrait du film suisse 4 dans une Jeep. Ils doivent cependant accepter le retrait de leur film Chine Nouvelle pour pas vexer Taïwan. Les Américains vont demander le retrait d'un film japonais, Les Enfants d'Hiroshima. Le Quai d'Orsay, lui, prend l'initiative tout seul de faire retirer Hiroshima, mon amour. Nelly Kaplan, vous vous souvenez, vous, de ces années un peu de combat diplomatique, même à coup de fête, entre qui ferait la plus belle fête, les Américains ou les Soviétiques?
C'est mon premier festival des Cannes, date de 1953. Effectivement, il y avait une sorte des grands mouvements et des grandes turbulences. On sentait, y compris aussi une chose qui était évidente, c'est qu'on essayait de manipuler les jurys autant qu'on le pouvait. Je pense que c'est changé maintenant. J'en sais rien, mais je pense que oui. Et il y avait, par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai débarqué de mon Buenos Aires natal, et c'était mon amour du cinéma. Enfin, j'étais comme un chat devant un océan de lait. Ce qu'il y avait de magnifique à cette époque-là, c'était quand même la cinéphilie qui s'était un peu perdue depuis. Je me souviens, c'était encore le Vieux Palais qui actuellement s'est devenu, je crois, l'hôtel Loga Hilton. Il y a la marche du palais à la sortie, vraiment, on discutait, on vociférait. Il y avait Jean-Louis Borry, Daniel Valcroz, Ben Ayoun. C'était vraiment la fête perpétuelle. Et c'est là, c'est ça le souvenir que j'ai gardé de ces années, des années 50.
Pourtant, on a plutôt l'impression, quand on regarde rétrospectivement les années 50, que pour les gens de cinéma, le festival était finalement plus un lieu où on s'amuse, où on prenait le temps de profiter des rayons de soleil sur la croisette. Est-ce que le cinéma n'était pas plus un prétexte pour faire la fête?
Il y avait les grandes fêtes, mais il y avait aussi, écoutez, la petite bataille d'Hernani de la Ventura, et c'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis. Enfin, je me suis battue dans la salle contre des salauds qui voulaient me faire taire parce que j'applaudissais. Enfin, c'était quelque chose. Il avait une vitalité. Actuellement, ce qui me frappe, enfin, je saute peut-être dans le temps. Ce qui me frappe actuellement, c'est quand on sort des projections, les gens se regardent presque pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs s'il faut aimer ou pas aimer. C'est-à-dire cette vivacité, cette passion, cette frénésie, je ne la trouve plus.
Jean Douchet ?
Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai arrivé à Cannes un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 58-59. C'est vrai que d'abord, il y avait un festival qui était d'abord festif. Bon. Mais ce n'est pas que les fêtes. Je pense pour nous, en tout cas qui aimions le cinéma, le côté festif, c'était beaucoup plus le plaisir d'avoir des films devant nous et de pouvoir se passionner pour ces films. C'est vrai que on se battait intellectuellement et en parole, mais on sortait et chacun avait ressenti le film à sa façon et en effet, ça s'exprimait avec passion. Il y avait aussi le fait, en effet, comme disait Lee, où on se retrouvait ensemble, même quelquefois des revues concurrentes se retrouvaient ensemble pour discuter. Bon, si d'un côté, par exemple, à l'époque, si la fête la plus courue était celle des Russes uniquement pour une raison de caviar, c'est bien ça. En revanche, il y avait le côté beaucoup plus fête entre nous. Moi, je me souviens, par exemple, les Cahiers du cinéma faisaient chaque année un dîner comme ça, ou un déjeuner plutôt, c'est un déjeuner, où il y avait, par exemple, à la même table, Rossellini, Buñuel, etc. Et c'était 20 ou 25 personnes, mais c'était entièrement entre nous. Il y avait une véritable communion à l'intérieur du festival. Puis en plus, c'était convivial, c'était communion. On se connaissait tous. On avait le temps d'aller au cinéma. Parce que il y avait bien sûr la compétition officielle, mais il y avait aussi le marché du film. Mais on avait le temps d'aller voir des films. On ne se disputait pas comme, mettons, aujourd'hui, où il faut arriver trois quarts d'heure à l'avance pour avoir une place.
Et puis Antoine de Bex aussi, les grandes années des académiciens. Quand on regarde les jurys de l'époque, on retrouve très souvent Jean Cocteau, on retrouve André Mauroy. Pourquoi ce besoin de faire présider ces festivités par des académiciens? Est-ce que c'était finalement de donner une caution des arts et lettres à un art qui n'était pas encore un art?
Oui, il y avait sûrement une question de légitimité, c'est-à-dire que l'Académie française qui a délégué un certain nombre de ses écrivains petits et grands, de Georges Huysmans à André Mauroy, en passant par Jean Cocteau, Maurice Genevoix, apportait ce prestige que le Festival de Cannes recherchait aussi. C'est-à-dire que le Festival de Cannes, c'est à la fois une manifestation, donc on l'a dit, touristique, diplomatique, cinéphilique, une manifestation aussi, je dirais, professionnelle, et une manifestation des stars, de l'apparition des stars et des vedettes du cinéma. Mais c'est aussi une manifestation qui a besoin de la la caution littéraire prestigieuse que peut apporter à ce moment-là l'Académie française, qui fait que les jurys sont, je dirais, systématiquement reconduits sous les auspices de l'Académie française. C'est l'idée que juger le cinéma doit être réservé à cette élite, je dirais, littéraire-là, qui est à la fois une élite reconnue et en même temps une élite toute relative, surtout quand on regarde, quand on compare cette élite à ce qui est en train de se mettre en place, puisqu'on est dans les années 50, c'est le grand moment de la cinéphilie, de la naissance de la, ce qu'on pourrait appeler la critique moderne de cinéma. Je dirais le jugement légitime, c'est très paradoxal, mais le jugement légitime sur le cinéma, il est en train de se construire dans les grandes revues de cinéma, même dans la presse, dans les journaux, qui de plus en plus ont leur critique cinématographique reconnue. Or, le jugement sur les films, à Cannes, il est réservé à ce qu'on pourrait appeler une sorte de caste académique, comme ça, d'écrivains, où on y a aussi, il y a de tout, il y a à la fois des écrivains complètement oubliés, puis il y a Pagnol, Giono, qui sont aussi présidents du jury Cocteau. Donc, y a là un paradoxe qui est à la fois assez étrange et puis qui va à un moment se nouer et éclater. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des revendications du côté de la jeune critique française et internationale de faire cesser le monopole de l'Académie française sur le jugement sur les films. Et donc, de plus en plus, d'une certaine manière, il y a cette idée de partir à l'assaut du festival qui monte au cours des années 50.
On y reviendra demain. Jean Doucher.
À l'époque, dans les années 46, la littérature, en effet, était au sommet des arts. Et les littéraires n'aimaient pas le cinéma, considéraient que c'était un art mineur. On peut le lire dans beaucoup de livres de cette époque-là, que commençait par Duhamel, lui aussi académicien, etc. Et donc, je pense que les organisateurs des festivals avaient besoin de se mettre justement sous la caution des littéraires, donc en plus la caution de l'académie, pour justifier ce festival et lui donner un certain retentissement. Et c'est exactement, enfin c'est tout à fait exact qu'à partir des années 50, il y a eu la question qu'est-ce que le cinéma, pour reprendre le titre de Bazin, et qu'est-ce que le cinéma, donc est-ce que le cinéma est un art? Rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, que la grande question dans les années 50 de la critique, c'était l'idée de la spécificité de l'art cinématographique. Le cinéma était un art spécifique, alors que jusqu'alors c'était un art secondaire pour la plupart des gens, pour la plupart des intellectuels. Et c'est ce combat, enfin véritable, qui n'est pas un combat violent, mais un combat véritable qui va se produire et qui va en effet chaque année, peu à peu, modifier ce système académique, ce système tout à fait stérile, en fin de compte, du Festival de Cannes. Il fallait que ça passe aux cinéastes eux-mêmes, il fallait que ça passe aux professionnels eux-mêmes, et non plus par la caution de la littérature. Quoi.
Antoine Debecq.
Oui, intéressant de noter que le premier jury présidé par un cinéaste, c'est Fritz Lang en 1964. Et donc là, on est passé à autre chose, c'est-à-dire que c'est la fin du règne des écrivains. Il y avait une sorte de passation de pouvoir en quelque sorte quand on est passé de l'Académie française à un certain nombre de grands écrivains prestigieux comme par exemple Simenon qui préside le jury en 61 et qui est là au Festival de Cannes à la fois comme écrivain. Mais en même temps, c'est un écrivain, bon, il n'est pas académicien, et puis il est plutôt connu pour le roman policier. Il est aussi proche du cinéma. Beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma. Donc il est presque là comme une sorte de passage entre la grande écriture, je dirais, académique, et puis la reprise en main, je dirais, du festival par le cinéma lui-même, par les professionnels du cinéma. Et à partir de 64 et de Fritz Lang, président du jury, vont se succéder essentiellement des gens de cinéma, que ce soit des grands acteurs. Olivia de Havilland, je crois, le suit en 65. Parfois même des critiques vont être de plus en plus membres du jury.
Oui, Nil Kaplan.
Oui, tout ça est très juste parce que Canudo a eu beau proclamer il y a longtemps que le cinéma était le septième art. Il est évident que le syndrome du saltimbanque nous collait à la peau Et même dans tous les secteurs, ce n'est pas qu'au Festival des Cannes, parce que par exemple, à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, avant que les cinéastes aient droit à y siéger, mais ça a pris des années et des luttes intestines incroyables. On n'avait pas le droit, on était des marginaux. Donc, effectivement, on a pris le pouvoir, on l'a pris avec véhémence.
Et c'est aussi les années où les films qui sont proposés à ces jurys d'académiciens ne sont pas choisis forcément pour des critères cinéphiliques. Ce sont des commissions dans chaque pays qui vont choisir les films qu'on envoie au festival. Quels sont les critères de choix, Jean Douché ?
Les critères de choix sont justement des critères de choix littéraires. Bon, c'est pas pour rien que la Symphonie Pastorale, André Gide, obtient le Grand Prix du Festival. Et la plupart du temps, c'était des raisons. Oui, ça vient d'un grand livre. Ça, c'est. Et ce sont ces raisons-là. Alors, quelquefois, style Romule ouverte, il y avait une échappée. Mais une échappée, pourquoi à ce moment-là ? C'est parce que ça avait une correspondance. Politique, en tout cas sociale ou par rapport à l'époque. Donc c'était quelque chose qui arrivait et qui était du cinéma peut-être, mais aussi un peu de l'ordre du documentaire, aussi de l'ordre du rappel des événements. Mais sinon, c'était très littéraire.
Nelly Kaplan ?
Pas seulement littéraire, c'était à l'époque, c'était les pays qui proposaient les films.
C'est ça.
Et depuis, ça a un peu changé, sauf que peut-être, heureusement, il ne reste que Cuba et la Corée du Nord pour continuer à exiger que certains films passent. Mais sinon, c'est actuellement les dirigeants du Festival des Cannes qui regardent les films, qui visionnent et qui décident.
Voilà, on regardera demain comment on en est arrivé là. C'était Les Chemins de la Connaissance, retour sur image, le Festival de Cannes. Aujourd'hui, eau de forme, bicornes et caviar. Avec Nelly Kaplan, cinéaste, Jean Douché et Antoine Debecq, historien et critique de cinéma. Équipe de réalisation, Bruno Martin, Pierre Monteil et Romain Lenoir. Préparation, Xavier Carrère. Réalisation, Georges Adaden. Merci à Catherine Parent et Marc Voinché. Une émission proposée par Antoine Guillot. Une bibliographie est disponible sur le site franceculture.com.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 mai 2002. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.